Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Homme.
Alors Brice, après les collapsologues, vous nous avez promis les techno-optimistes.
Ben les voilà Florian. Si l'on en croit les Canadiens Johanna Schurmack et Pierre Desrochers, auteurs d'un livre consacré à répliquer aux prophètes de la fin du monde écologique, intitulé Population Bombed, Exploding the Link Between Overpopulation and Climate Change, eh ben les arguments opposés par les éco-optimistes aux éco-pessimistes tourneraient autour de deux idées fortes. Un, plus un groupe humain concentre de cerveau, plus il est susceptible de bénéficier de cette intelligence collective pour trouver des solutions à ces problèmes. Et donc, la surpopulation est un faux problème. Deux, le progrès technique est cumulatif. Toute civilisation construit son savoir de manière progressive. Elle acquiert les moyens de régler les problèmes qu'elle rencontre au fur et à mesure qu'ils se présentent. Car, comme l'écrit Steven Pinker, le plus optimiste des éco-optimistes, le progrès ne peut pas toujours être uniforme et les solutions aux problèmes créent de nouveaux problèmes. Les civilisations évoluées pratiquent une intelligente spécialisation. Il leur faut en outre, toujours selon Pinker, renoncer aux illusions de la foi, du dogme et de l'autorité qui sont des fauteurs d'illusions. Oser critiquer donc les méthodes du moment afin d'en imaginer d'autres plus efficaces, plus productives. Mais dira-t-on, que faites-vous des fameux cas d'effondrement que les collapsologues nous citent ? Nous aussi, civilisation, nous savons que nous sommes mortels, n'est-ce pas ? Et nous pourrions bien finir comme les Mayas, les habitants de l'île de Pâques ou la civilisation mycénienne. Toutes sortes de documentaires sérieux, de livres importants leur ont été consacrés, dont le best-seller universel de Jared Diamond, souvenez-vous, « Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie ». Tous méditent sur ces précédents. Eh bien, les sociétés en question, nous avertissent-ils, ont péri d'avoir détruit leur environnement en le surexploitant. Ainsi, les habitants de l'île de Pâques, selon Jared Diamond, auraient provoqué un désastre écologique en coupant tous les arbres. Et ils seraient demeurés prisonniers sur leur île, incapables d'échapper à leur suicide écologique. Les Mayas, eux, auraient été victimes d'années consécutives de sécheresse provoquées par la surexploitation des sols. Et les Mycéniens, d'une famine due à la surpopulation.
Voilà, bien des avertissements, Brice.
Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Selon l'archéologue britannique Guy Middleton, auteur d'un livre intitulé « Understanding Collapse, Ancient History and Modern Myth », les États mycéniens se sont effondrés, c'est vrai. Les fameux mégarones où siégeait leur roi 1400 ans avant notre ère ont été abandonnés, c'est encore vrai. Mais rien ne prouve que la vie des paysans dans les campagnes environnantes en ait été changée d'un iota. Rien n'atteste, aux yeux des archéologues, l'existence de la fameuse famine imaginée par certains historiens. D'ailleurs, si les États se sont effondrés probablement pour cause de conflits entre eux, la civilisation mycénienne, elle, n'a pas disparu, elle s'est juste transformée. Même chose pour les Mayas. Leur empire était probablement constitué de 60 à 70 États relativement indépendants. À la fin de la période dite classique terminale, oui, certains entre eux ont périclité. Il y a eu des guerres dont nous ne savons rien puisque ces imbéciles de prêtres espagnols ont brûlé la quasi-totalité des codex. Il y en avait plusieurs milliers que les Mayas conservaient et dans lesquels ils conservaient leurs mémoires et leurs archives. Mais si certaines des cités Mayas étaient en effet déjà désertées lorsque les Espagnols y ont pris pied au XVIe siècle, il est inexact de prétendre que l'Empire Maya s'était alors effondré. Non, de nouvelles cités avaient été bâties ou rebâties comme Chichen Itza, Mayapan ou Uxmal. Quant à l'île de Pâques, il semble bien que le soi-disant désastre écologique soit d'une invention toute récente. Les premiers explorateurs comme Jacob Roggeveen en 1722 écrivirent qu'ils trouvèrent sur l'île en abondance sucre de canne, volailles, ignames, poissons, crabes et crustacés. Les Iliens avaient à cette époque développé des techniques agricoles fort intelligentes. Ils utilisaient sur des cultures en terrasse des cailloux pour prévenir l'érosion des sols. Il semble bien que la population de l'île n'ait jamais dépassé les 4000 personnes et que les ressources de l'île de Pâques étaient largement suffisantes pour les nourrir. Quant aux fameuses sculptures qui auraient causé le déboisement, les sculptures monumentales qui ont fait la réputation de l'île de Pâques, les Moai, elles étaient encore toutes dressées à la verticale en 1722, mais les habitants avaient simplement cessé de les vénérer, ils avaient changé de culte. Ce sont les maladies apportés par les Européens et les raids meurtriers opérés par les trafiquants d'esclaves qui ont bel et bien dépeuplé l'île de Pâques et non pas un désastre écologique d'imagination récente. Selon l'archéologue Guy Middleton, c'est notre conditionnement culturel qui nous pousse à privilégier les scénarios les plus catastrophiques. Nous projetons sur un passé que nous connaissons fort mal les fantasmes d'apocalypse que nous nourrissons vis-à-vis de notre propre avenir. Mais le pire, lui, n'est jamais sûr.